Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 ou www.radiogalère.org et c'est l'émission Libre Débat. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent tous les premiers mercredis du mois, pardon, l'histoire qui ne fait pas l'histoire, parce que normalement c'est leur créneau, sauf que j'ai des petits problèmes d'agenda et que je me suis trompée. Soigner, prendre soin, soignante, aide-soignante, prendre soin de soi, patienter, patientèle, santé, santé mentale, santé physique. Comment, en cette période étrange, prendre soin de soi, tenir, avoir l'attention sur les autres? Comment naviguer entre le corps et l'âme? À quoi ressemblent les espaces psychiatriques? Comment ne pas se laisser déborder par ses propres émotions? Et si c'est le cas, comment faire avec ce débordement? Quels sont nos espaces de repos, de répit, d'interstice, d'incertitude? Qui tient les rênes de la bonne santé et celles de la mauvaise santé? À quel moment avons-nous cru que des applaudissements à 20h marqueraient un acte révolutionnaire? Comment la colère est-elle à tenir? Quelle place pour les émotions? Les ressentis. Qui légitime les émotions de qui? Comment ça se passe quand on est noir, pauvre et qu'on était déjà précaire en mars 2020? Ça veut dire quoi péter les plombs? Toucher le fond? Pourquoi dans la culture où j'ai grandi, entendre des voix n'est pas une maladie? Et quand on nous apprend même à faire avec, pourquoi est-ce que c'est un problème? Est-ce que porter un masque fait de nous des robots du non-verbal? Est-ce que quand patron demande de fournir encore des efforts, il se fout de notre gueule ouvertement? Comment cohabiter avec une épidémie qui se propage encore et encore? As-tu déjà été cas contact de cas contact de cas contact? Pourquoi on parle si peu des femmes de ménage dans les hôpitaux? Et de la grève des femmes de chambre de Ibis Batignolles? Ça fait quand même 20 mois, non? Donc bientôt presque 2 ans. Et pour celles et ceux qui traversent les frontières, on en parle de leur santé? Ça se soigne comment en accueil? Comment prendre soin de nos espaces de vie, de lutte? En quoi une épidémie vient-elle révéler une casse du système de santé qui dure depuis des années? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment accéder aux soins? Est-ce que ça vaudrait le coup d'ouvrir des centres pour former les mecs cis à prendre soin sans en faire une chaîne YouTube? Quelles sont les conséquences d'un cœur qui s'arrête pendant 61 secondes? Qu'est-ce que ça fait 9 anesthésies générales sur un seul et même corps? Aujourd'hui, on va tricoter autour de la thématique du soin. La thématique qui dépasse bien évidemment et largement la question de l'épidémie actuelle. Comme un fil rouge dans une continuité. D'ailleurs, dans cette émission, finalement, on ne parlera pas tant du Covid, mais un peu quand même. Je suis allée fouiller dans les lectures, dans des podcasts, sur des sites de camarades. Cette émission, c'est un peu comme un millefeuille. Et il y aura de la musique, une lecture d'un texte publié en 2019, un extrait, ou plutôt un long teaser de l'émission de La vie des nôtres à Toulouse, une lecture d'un chapitre d'Afropéa de Leonora Miano, de la poésie, une interview de La Frontière, etc., etc. Et en fait, quand même, ça s'appelle émission Libre Débat, mais il n'y aura pas de débat puisque je suis toute seule en studio. Juste des choses à entendre, à partager et à creuser si on veut aller un peu plus loin. Bonne écoute. On va commencer par un texte qui s'appelle La Boucle. C'est un texte que j'ai lu il y a 1 an et demi sur le site de Case Rebelle. On rappelle que Case Rebelle, c'est un collectif politique non mixte de femmes et d'hommes noirs, africains, africaines et caraïbéennes. C'est un collectif qui a été créé en 2010 et qui s'attaque à toute forme de domination dans une perspective afrocentrée. Vous entendrez à la suite leur présentation. Je diffuse ce texte La Boucle avec l'accord du collectif et de la personne qui l'a écrit. Il a été écrit par une femme trans. Je me dois par honnêteté aussi de préciser que moi, j'ai jamais vécu personnellement des moments en hôpital psychiatrique. C'est un texte qui m'avait beaucoup touché à l'époque et qui me touche encore, et c'est pour ça que j'ai voulu le partager.
Gaz rebelle
numéro 1.
Nous sommes sœurs et frères d'Afrique et des Antilles.
Nés en Occident, y ayant grandi, nous parlons d'ici. Incarnation ici d'un ailleurs dérangeant et accusateur.
Nous, afrodescendants, nous définissons comme noirs. Noirs, et pas un des mots issus de la stigmatisation ou de l'euphémisation.
Nous considérons que les peuples noirs d'Afrique et des diasporas ont tout intérêt à se reconnecter autour de luttes communes et à mettre en relation les nombreux foyers de colère et de résistance qui existent.
Nous ne croyons pas en un passé anticolonial idéal originel où auraient existé des sociétés africaines égalitaires et harmonieuses.
Nous refusons la lecture prioritairement ethnique des problèmes en Afrique. Les identités complexes coexistant sur le continent africain ont été niées par les découpages nationaux arbitraires. Les ethnies, réelles ou fantasmées, les appartenances religieuses, les découpages territoriaux et autres composantes identitaires ont été et sont encore utilisées et instrumentalisées de manière récurrente pour servir les desseins des dominants, colonialistes, militaires, organisations religieuses, autocrates, multinationales.
Il n'existe pas de croyances noires pures et originelles, ni même de religion qui serait faite pour les noirs. Il existe des noirs de toutes les religions et des noirs athées. Nous respectons les croyantes et les croyants, mais nous méprisons les religions quand elles servent la soumission d'un peuple. Nous les méprisons aussi quand elles opèrent la recolonisation des territoires et des imaginaires. Il n'existe pas de religion noire et c'est tant mieux.
L'histoire et la conscience des peuples noirs ne commencent pas avec l'abolition de l'esclavage ou les indépendances. Il est pour nous nécessaire et vital d'explorer et partager les histoires de l'Afrique et de ses diasporas, de leur production sociale, politique, culturelle, technique. Nos recherches et apprentissages permanents doivent s'affranchir du conditionnement occidental.
Nous refusons que la question de la participation de Noirs à la traite continue de nous diviser. Les Noirs ont participé à cette entreprise ignoble pour le profit d'autres personnes. L'Afrique en a souffert, tout comme les êtres humains réduits en esclavage en ont souffert. Toute critique venant d'Afrique reprochant leur manque d'africanité aux descendants d'esclaves est une honte. Toute critique venant des descendants d'esclaves vantant leur propre développement et moquant l'état actuel de l'Afrique est aussi une honte.
La traite des Noirs, leur mise en esclavage et la colonisation ont été des formes brutales et sans déguisement du capitalisme contre lequel nous combattons et dont nous refusons tout aménagement.
Nous enrageons des obstacles opposés au premier peuple noir qui s'est libéré de l'esclavage et a conquis son indépendance, le peuple haïtien.
Les attaques et les recours multiples pour entraver cette libération furent exemplaires. Annonçant l'acharnement et les manipulations des puissances coloniales pour garder le contrôle sur les populations asservies et les territoires exploités.
Nous pleurons encore, nos héros et héroïnes sacrifiés, et nos larmes sont d'une rage qui se fera payer.
Nous ne reconnaissons qu'une seule dette, celle des puissances coloniales et néocoloniales à l'Afrique et à ses diasporas. Nous considérons qu'il est juste d'exiger des réparations économiques. Le FMI, la Banque mondiale et leurs politiques ne sont que des chaînes injustifiées et inacceptables. Nous devons nous battre pour l'indépendance économique et politique des États issus de la décolonisation.
La tutelle coloniale n'a fait que muter en passe-droits occidentaux achetés aux dictateurs africains. Surexploitation des sols, des sous-sols, des mains-d'œuvre, pollution et dévastation de l'environnement, alimentation et instrumentalisation des conflits, inexistence de droits pour les travailleuses et les travailleurs, dévalorisation voire anéantissement de l'agriculture vivrière, asservissement des populations par le tourisme.
Le soi-disant sous-développement résulte de l'organisation des échanges économiques mondiaux à l'avantage de l'Occident et au détriment des populations du reste du monde. Les rapports inégalitaires dit Nord-Sud, perdure et continue d'organiser l'appauvrissement du Sud. Coopération et aide humanitaire en sont également les outils. Nous contestons l'objectif occidental hégémonique de développement. Il n'y a pas retard, il y a asphyxie. Le développement n'abolit pas les rapports de domination intrinsèques à l'économie capitaliste, il les entretient. Nous pleurons nos sœurs et frères d'Afrique, sacrifiés aux spéculations de l'industrie pharmaceutique et au business humanitaire.
Nous considérons ne devoir que du mépris à nos élites corrompues, qui ont vendu leur sourire, les luttes de libération et les sous-sols au capitalisme brutal. Nous sommes solidaires de tous les peuples qui subissent ces mêmes schémas d'exploitation.
Nous aimons nos musiques et nos danses, de lutte, de joie, d'amour. Mais si nous dansons, ce n'est pas pour être applaudis, mais pour exulter.
Nous méprisons l'iconographie des héros noirs quand elle masque la nécessité de se battre.
Barack Hussein Obama n'est pas notre élu. Il n'est ni le premier ni le dernier, nous en sommes sûrs. Le nom glisse donc de Tom ou de Hattie McDaniel, satisfait de leur place et satisfaisant pour leur maître.
Nous nous moquons de nos intellectuels présentables et de leurs prix littéraires, des sportifs noirs, mutiques et performants sur les stades, de leurs apolitismes traîtres et criminels.
Nous ne voulons pas participer d'un label blanc de mixité sociale. Nous refusons d'être pourvoyeurs et pourvoyeuses d'exotisme et nous déclarons la guerre au tourisme occidental.
Nous prônons une unité antisexiste débarrassée des comportements sexistes et homophobes, d'où qu'ils aient été hérités. Notre lutte ne vaudra que si elle est menée par les femmes et les hommes.
Nous méprisons les frères qui méprisent les sœurs au nom de pseudo-valeurs noires, africaines ou antillaises. Ce sexisme racialisé n'est qu'une excuse lamentable. Nous méprisons les discours homophobes. Nous méprisons les discours définissant l'homosexualité comme la maladie apportée par le blanc.
Nous estimons qu'il est nécessaire de se réapproprier honnêtement les histoires des sexualités noires.
Nous ne prônons pas de modèle identitaire univoque. Nous nous positionnons contre la domination raciale et ses multiples formes. Nous nous adressons ici aux individus, aux groupes d'individus et à tous les peuples noirs.
Nous croyons aux alliances avec les peuples et les individus qui sont clairement débarrassés de la négrophobie.
Nous croyons aux alliances avec les victimes de l'exploitation capitaliste de toute la planète, s'ils sont informés des histoires qui ont conditionné et conditionnent les rapports interraciaux.
Nous soutenons et encourageons toute résistance, toute révolte contre l'hégémonie économique, culturelle, politique, blanche et occidentale.
Nous ne prônons pas la guerre raciale, mais une guerre sociale.
For y'all, all my dogs stay real. Nigga, don't thank me, rack. record deals gon' feed your season, pay your bills because they not. MCs get a little bit of love and think they hot. Talking about how much money they got. Nigga, all y'all records sound the same. I'm sick of that fake thug R&B rap scenario all day on the radio. Same scenes in the video, monotonous material. Y'all don't hear me though. These record labels slang our tapes like dope. You could be next in line and sign and still be writing rhymes and wrote. You would rather have a Lexus or Justice, a dream or some substance, a beamer, a necklace, or freedom. Still a nigga like me don't play a hate, I just stay awake. This real hip hop, and it don't stop till we get the popo off the block. They call it
La boucle. M'y voici de nouveau. La crise. L'incapacité de bouger, de manger, de dormir. L'impossibilité de ne pas penser chaque seconde à la même chose. Coincé dans un cycle de stupeur, d'effroi. Dans l'interminable réanimation de mes terreurs infantiles et de mes traumas insolubles. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est la vie dont j'ai hérité. Les années de déni n'ont jamais fait que me mener à la réclusion volontaire, à l'automutilation et autres dynamiques autodestructrices. J'ai pas mal d'idées sur les racines du mal qui me grignote, moi, tout comme il grignote mes frères et sœurs d'autres manières. Je m'allonge dans les divans, prends place dans l'ambiance feutrée de cabinet psy depuis que je suis enfant. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir. Mais trouver la source n'empêche pas l'écoulement du fleuve et n'en change pas le cours. Je considère malgré tout mon existence, ou plutôt ma persistance, comme un peu miraculeuse. En même temps, elle tient à un fil ténu. Je ne suis pas suicidaire. Je suis donc restée pendant des années de plomb dépourvue de perspective. J'ai maintenu mon corps et mon esprit dans une espèce d'infra-existence faites de drames et angoisses obsessionnelles insolubles. Depuis plus de 10 ans, j'ai trouvé des clés pour une vie où la douleur omniprésente est moins forte. L'équilibre est précaire. Et la douleur, moins forte mais omniprésente, c'est quand même une plaie. Et puis, de temps en temps, les hasards, la malveillance, le racisme, les impasses humaines me ramène aux urgences dans une détresse absolue. Je suis là, prostré sur mon siège en plastique, vendredi soir. Autour, ça grouille, j'observe en alerte, tout en poursuivant le fil de mon angoisse obsessionnelle en parallèle. Je ne parle pas aux deux sœurs qui m'accompagnent. Je n'arrive plus à parler, hormis pour répéter que je suis désolée d'être celle que je suis. Le temps passe. Des gens plus ou moins tendus nous entourent. Régulièrement, par une porte un peu éloignée de nous, des flics entrent tout fiers avec un individu menotté. Ils donnent des ordres, tutoient. Ils n'ont aucun respect, aucune discrétion. Je le vois, le constate, mais je suis enfermée dans ma douleur propre. Je suis en colère d'être enfermée comme cela. Dans cette prostration incapacitante. Je suis en colère aussi de savoir que ma seule raison de vivre, les activités de mon collectif, ma famille, peuvent aussi, si je ne fais pas les bons choix, me mener ici. Me ramener ici. La boucle. Vais-je toujours y revenir? Je pense toujours que c'est la dernière. Mais à mon âge, il est plus lucide de considérer que dans quelques temps, je reviendrai là. tout en me battant de toutes mes forces pour que cela n'arrive pas. J'ai honte. Je sais que c'est complètement déplacé, mais j'ai honte de ce que je perçois comme une faiblesse. Honte que certaines aient ce pouvoir sur moi. Ce pouvoir de me désagréger de leurs attaques. Honte d'être dépendante de la loterie, des urgences psychiatriques. Honte de la manière dont mon cerveau, qui a connu les morts violentes, l'isolement, etc., réagit à des faits beaucoup moins graves. Cela doit bien faire 1h30 que j'hypnotise le carrelage quand arrive une jeune femme en tenue de soignante. Elle dit mon nom et me demande de la suivre. Elle se présente et me dit qu'elle est infirmière psychiatrique. Elle m'invite à rentrer dans une pièce et à m'installer. Elle va revenir. Je reste debout dans la pièce. Je n'ose m'asseoir nulle part. Elle est de retour. Nous nous asseyons. Elle me demande ce qui m'amène. J'explique. Avec les mots et l'expertise de toutes mes années d'existence dans le même état. Elle me parle de psy. Je lui dis que je viens de quitter le mien il y a peu. Elle veut savoir pourquoi. Je ne vois pas l'intérêt, mais je réponds quand même. J'explique que mon psy a essayé de défendre l'idée qu'un attouchement sans consentement n'était pas une agression si on ne le ressentait pas tout de suite comme tel. Je lui parlais en l'occurrence d'un homme qui m'avait mis une main aux fesses et de comment ce n'était pas la première fois. Là, l'incroyable infirmière psychiatrique me sort. « Mais vous, vous préférez les hommes ou les femmes ?» Je ne saurais dans quel tréfonds de la normativité et de la culture du viol est née cette question à ce moment-là. Que veut-elle? Dans quel livre, quel cours apprend-on à poser ce genre de questions? Je sors de la prostration. Le moi politique prend le dessus. Mais elle se défend. Comme s'il s'agissait d'un débat d'idées. Je n'y crois pas. Où suis-je? Sortez-moi de ce film d'horreur. Je sors le bazooka des attouchements passés pour qu'elle arrête de suite. Cela semble la réveiller de ses élans socratiques et la ramener au fait que je suis là devant elle parce que je souffre. Mais quand même, la boucle. Encore une fois, des soignants soignantes tellement imprégnés de la culture du viol qu'ils, elles, essaient de faire du consentement une donnée à géométrie variable, subordonnée au ressenti et à la réaction du moment. Je suis rempli d'effroi. Mais il ne remplace pas mon envahissement mental, il se surajoute. Alors, mon instinct de survie et d'adaptation se met en place. J'explique mécaniquement ce qui m'amène là et concède encore plus mécaniquement que oui, juste pouvoir dormir. Donc, juste m'assommer à coups de médicaments, ça me suffira. Je n'ai pas besoin d'humanité ou d'expertise psy. Vous venez de détruire toute possibilité de confiance. L'échange se termine. Elle m'explique que je dois voir un psy, mais je dois passer aux admissions avant. Aux admissions, une dame très gentille m'accueille. Elle me demande si je suis déjà venue. La boucle. Elle me retrouve dans l'ordinateur. Elle trouve que ça fait longtemps. Moi aussi, si j'y réfléchis bien. Mais pour mon cerveau, c'est encore tout frais. Et ça s'était bien passé cette fois-là. Nous ne sommes pas sur ce chemin-là cette fois-ci. Je reviens dans les locaux des urgences psy. J'attends là presque 2 heures. J'observe les allées et venues. Suis témoin du changement d'équipe. Je devine qui est le psy que je dois voir. Je suis près d'un box où ils discutent. J'entends. Pas tout, mais j'entends trop. J'essaie de fermer les yeux, de me dire que bientôt ce sera fini. Bientôt ? Rien n'est fini au moment où j'écris ce texte. La psy m'a reçu gentiment. Mais vu mon âge et mon parcours, mon passif, il n'avait ni le temps ni l'envie de m'écouter très longtemps. Des médicaments. Des adresses pour un nouveau psy. Une proposition presque intéressante pour un programme d'éducation thérapeutique sur les troubles anxieux. Pour là, tout de suite, des médicaments, rien que des médicaments. Que je passe le week-end. Encore une fois, malgré une certaine bienveillance, je ne peux pas exiger d'un soignant qu'il s'implique pour essayer de faire dérailler mes angoisses obsessionnelles. D'autres l'ont souvent bien fait dans ces mêmes situations d'urgence, mais là, je ne sais pas. Sans doute que tout est devenu trop classique, trop cyclique dans mon cas. Je ne mentionne pas d'idées suicidaires. J'ai l'âge que j'ai. Ma situation, à la fois bénigne et désespérée, peut se résumer ainsi. Je ne vais pas beaucoup changer, mais je ne ferai rien de grave. Nous sommes restés à l'hôpital entre 4 et 5 heures. Tout ça pour ressortir avec 3 comprimés de Xanax et de l'effroi en plus sur l'état de l'humanité et l'état du soin psy. La boucle. L'inutile, la colère, l'impasse. Je m'endormirai tout à l'heure, surprise, par la détente pourtant prévisible et inutile de cette chimie que je déteste. Et je continuerai à essayer de me tenir à distance des urgences psy, encore plus de l'internement pour quelques années. La boucle, le sablier. La suprématie blanche, le sexisme, les abus répétés m'ont plastiqué il y a longtemps. Je me trouve vivante, drôle, active. Mais tout peut toujours s'arrêter n'importe quand et me renvoyer à cette infravie qui, si je compte honnêtement, constitue une part bien plus importante que la vraie vie qui lui fait face. Des obsessions à se cogner la tête contre les murs. Ma mâchoire coincée à m'en déchausser les dents. Je ne suis pas fataliste. Je me bats. Je crée sans cesse des issues, des possibles. Et le monde est plein de possibles rencontres thérapeutiques. Mais je ne serai pas soignée par celles et ceux qui m'aiment. Et il est impératif qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que cela mine l'amour quand il est constamment travaillé d'inquiétude, de détection de signes avant-coureurs, etc. Je suis donc obligée de rêver de soignant-soignante avec un minimum de compassion, d'empathie pour la personne que je suis. Parce que sans ça, juste me dire devient une bataille exténuante. C'est pour cela qu'il y a la boucle, que l'infravie est si puissante et les alliés si peu nombreux, nombreuses. M.la, case rebelle, juillet 2019.
On est toujours en direct sur Radio Galère. Du coup, c'était La Boucle et juste avant, une présentation du collectif Case Rebelle par elle et eux-mêmes. Je voulais rappeler les coordonnées du site. Donc, c'est www.case-rebelle.org. Il y a des tas de choses à lire et à écouter sur leur site. Et on y trouve parmi d'autres une rubrique qui s'intitule « Santé, lutte anti et psy ». C'est là que vous pourrez retrouver, si vous voulez, le texte qui vient d'être diffusé.
I'm sorry.
C'est toujours libre débat et je rappelle que normalement c'est l'histoire qui ne fait pas l'histoire qui a ce créneau-là, mais voilà, il y a eu un petit couac et d'habitude c'est tous les deuxièmes mercredis du mois qu'on fait entendre, écouter la parole de celles et ceux qu'on n'entend pas beaucoup ou pas assez encore. Maintenant, on va s'écouter une interview qui a été envoyée par une copine. C'est un son de la frontière, vous verrez laquelle. Le son a été pris dans un espace qui s'appelle Breakfast. J'en dis pas plus, on écoute.
Quelques paroles depuis la frontière. J'ai recueilli, fin mars 2021, quelques paroles dans un endroit nommé le Breakfast. Petit déjeuner ou littéralement rupture de jeûne. Juste à côté de la frontière de Menton, à 7-8 km de Vintimille. C'est un endroit qui surplombe la mer, magnifique, mais aussi une frontière meurtrière. C'est un endroit sur le bord de la route, investi par les activistes de Quechanilla pour apporter du soutien et du réconfort aux personnes refoulées lors de leur tentative d'entrer en France. Au breakfast, on trouve des boissons, de la nourriture, des soins médicaux, parfois, avec le passage de médecins du monde. Un endroit pour se reposer, recharger ses batteries, obtenir des infos, attendre le bus pour retourner à Vintimille, et pour certaines personnes, y passer la nuit, avant de retenter le passage de la frontière le lendemain. Quechanilla signifie « pas de problème » en kurde sorani. Quechanilla est une organisation de soutien aux personnes migrantes, fondée à Grande-Synthe en mars 2016. Depuis 2017, Quechanilla est active dans la région de Vintimille. Et depuis septembre 2018, ce breakfast a été mis en place avec des dizaines de personnes qui y passent chaque jour.
Je suis un migrant à la frontière entre l'Italie et la France. Pour moi, là, ça fait 3 semaines maintenant que je suis à la frontière ici. J'ai tenté 9 fois, 6 fois dans le train et 3 fois dans la montagne. Mais je n'ai pas rentré tout ça là. Le policier m'a refusé de rentrer en France. Je ne sais pas à quel problème. Donc, voilà, c'était comme ça. Donc, on n'a qu'à faire tout faire, solution pour nous, on n'a pas rentré. Voilà, on est trop fatigué ici, on ne dort pas bien. Voilà, c'est ça.
Et la situation, elle, c'est encore plus compliquée, parce que ça fait un moment que tu es dans le coin.
Oui.
Ça fait combien de temps?
Oui, ça fait 1 mois et 1 semaine maintenant. Oui, oui, très très compliqué. Oui, oui.
Là, j'ai vu à la gare à Vintimille.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe? Ils bloquent?
C'est la police qui nous demande les papiers. Et pourtant aussi, nous n'avons pas de papiers, nous sommes de nouveau. Quand on cache dans le train aussi, il fait tout possible pour nous descendre, pour pouvoir rentrer. Il n'y a rien d'accueil ici, rien. On dort dans la gare des trains. Il n'y a pas de maison ni rien. Voilà. C'est pas facile. Surtout en menton. Chaque fois même, il m'a attrapé en menton. Oui, menton. Un jour même, j'ai rentré. J'ai marché la nuit, j'ai rentré dans la ville de Menton. À 6h55, j'étais arrêté dans le Boudron pour chercher le bus pour aller à Nice. Le policier vient m'attraper. Il m'a envoyé jusqu'à ici à la frontière aussi encore. Il m'a fermé 2h, 3h. Après, il m'a libéré quand je n'ai pas retourné aussi en Italie. Mm-hmm. Oui.
Mais tu gardes espoir quand même?
Inch'Allah. Oui.
Tu vas réessayer?
Je vais essayer. Hey, je ne peux pas fatiguer. Je vais essayer. Inch'Allah, un jour, je vais rentrer en France. Oui. Moi, je suis africain. Je ne vais pas décourager. Tout ça là, c'est pour le Dieu. Ça va être un jour, ça va être facile pour moi. Oui, comme aujourd'hui, on aura la difficulté. Inch'Allah, un jour, ça va être facile pour moi. Pour la grâce de Dieu. Parce que chaque chose que Dieu fait est bon. Voilà, chaque chose a son temps aussi. Je suis fatigué, très très fatigué. C'est très très dur pour moi. Oui.
Et la suite, c'est... Tu rentres à Vintimille et...
Oui, je vais rentrer à Vintimille. Hein.
Et ça recommence?
Je vais commencer aussi encore.
Mm-hmm.
Le soir. Ou soit demain. Parce que si j'ai essayé le soir, s'il m'a attrapé, je vais dormir à la gare de ville. Et pourtant aussi, c'est pas bon pour moi. Parce que j'ai dormi là-bas 3 fois ou 4 fois, gare de ville.
À la gare de Mentonville?
À la garde de vue de police.
Ah, la garde à vue dans
oui,
le conteneur.
Oui, dans le conteneur. Je dois là-bas 4 fois.
T'as passé 4 nuits?
4 nuits là-bas.
Okay.
C'est pas bon pour moi.
C'est comment là-dedans?
Là-bas, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vais l'avoir. Oui, oui. Là-bas, là, c'est pas bon. Suivant 20 personnes, 30 personnes, suivant 15 personnes, suivant 50 personnes.
Qui passent la nuit?
Oui, oui.
Et on te donne à chaque fois un papier de refus d'entrée en France?
Effectivement.
I've been here for 3 weeks
now. Ça fait 3 semaines que je suis ici. Quand je suis arrivée, il y avait plus de gens qui venaient. Généralement, je travaille l'après-midi et le soir, beaucoup de gens arrivaient de la frontière. 20 ou 30 personnes à peu près. On leur servait à manger. Habituellement, elles étaient relâchées tout juste pour prendre le dernier bus. Parfois, il y avait plus de personnes que de places dans le bus. Et la police disait « Non, il y a trop de monde ». Et il me semble que particulièrement la semaine dernière, il y a eu moins de passages. Particulièrement les dimanches, par exemple. Il y a eu vraiment peu de gens qui sont venus ici. Ça fait seulement quelques jours que je suis ici, mais je suis venue ici il y a un an et demi. À ce moment-là, il y avait plus de mouvements d'une façon ou d'une autre. On voyait les gens deux, trois, quatre fois par jour. On leur disait « Ok, vous n'avez pas réussi maintenant, mais vous allez prendre le bus pour Vintimille et vous allez essayer à nouveau et réussir. » Et après la quatrième fois, on ne les voyait plus et on savait que les personnes avaient réussi à passer la frontière. Maintenant, on passe beaucoup de temps avec les gens qui sont ici. Ils ne peuvent même pas essayer de passer. L'atmosphère est beaucoup plus à la frustration. Et beaucoup plus tendue. Donc habituellement, les gens essaient de prendre le train, mais récemment, la police a commencé à contrôler les trains de façon sévère et ne laisse pas les gens monter. Donc ils ne sont pas refoulés à la frontière, mais avant. Et aussi, je ne sais pas depuis combien de temps cela est en place, mais il y a aussi des militaires dans les montagnes. Donc toutes les personnes qui essaient de passer la frontière à pied sont aussi attrapées. Pour les gens, il n'y a pas trop d'aller-retour en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas prendre le train et c'est très difficile pour eux. C'est aussi difficile de leur donner des conseils parce qu'on ne peut pas leur dire, comme on en avait l'habitude, réessayer une ou deux fois. Maintenant, ils ne peuvent même pas essayer. Je crois que c'est très frustrant.
Et qu'est-ce qui vous motive à venir ici et à faire ce que vous faites ?
Je me suis posé la même question et la réponse est un peu complexe. C'est pas comme si on ne pouvait pas aussi être utile en Allemagne, mais pour moi, c'est la première fois que je participe à un projet comme celui-ci. Je crois que c'est plus facile de participer à un tel projet si on va dans un endroit particulier, parce qu'on est dans un nouvel environnement et un nouveau cadre. C'est alors peut-être plus facile de se lancer dans quelque chose quand on n'a plus tous les soucis qu'on a chez soi, des études à suivre ou autre. Et puis je connaissais des gens ici, donc c'est plus facile de commencer comme ça. Et aussi, on entend les nouvelles tout le temps en Allemagne et on se renseigne sur la situation et on veut faire quelque chose. Puis vient une opportunité et pourquoi pas la saisir.
Pour moi, c'est aussi beaucoup de raisons différentes et c'est assez complexe. Je dirais que je suis aussi ici parce que j'aime beaucoup Keshania. J'aime le côté anarchiste et j'apprends beaucoup au sein de la structure du groupe, par la façon dont nous nous organisons. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. La dernière fois que je suis venue, je suis en fait devenue amie avec quelqu'un qui était dans le camp de la Croix-Rouge et qui a aussi travaillé avec Keshania. Il est en Allemagne maintenant et nous réalisons un projet vidéo sur son temps passé à l'Ankerzentrum en Allemagne, dans le camp de réfugiés. J'aime bien le mélange entre la rencontre des gens ici, puis ces personnes viennent en Allemagne et nous faisons des choses politiques là-bas. Mais je reviens quand même ici parce que j'aime être sur les frontières extérieures, mais aussi en Allemagne pour avoir une vision qui fait sens pour moi. Ça fait aussi sens pour moi d'être sur différents endroits et de voir quelle est la situation. Je peux ensuite faire un puzzle et comprendre pourquoi la situation est aussi merdique à tant de niveaux. Et pour ça, c'est bien de quitter l'Allemagne et de voir comment c'est en Italie et en France.
Alors, l'endroit dans lequel on est pourrait ressembler à un endroit de rêve, et pourtant, c'est le cauchemar pour plein de gens. Comment on garde espoir dans ce genre de situation ?
C'est parfois difficile, particulièrement depuis cet endroit, parce qu'on peut voir Monaco, avec tellement de gens super riches qui viennent en voyage. Ils passent aussi à côté de ce lieu, la voiture ralentit, ils nous regardent plus ou moins, puis ils continuent leur route. Ça me met en colère souvent, en fait. Mais ça n'a pas trop de sens d'être en colère. Ça n'aide pas beaucoup à la fin. Et pas dans cette situation. Donc quand je suis ici, j'essaie de mettre ça à distance et de créer un espace agréable pour les personnes parce qu'elles ont vécu des trucs de merde et elles méritent d'avoir un endroit calme et agréable.
La dernière fois, j'étais vraiment frustrée parce que je pensais pourquoi c'est si merdique et pourquoi le gouvernement allemand est aussi merdique. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une solution simple. Maintenant, je suis plutôt OK, cette solution ne va pas arriver. Et ce qui se passe, c'est que les gens ici s'organisent sur le terrain. Ça se passe à ce niveau, et c'est ce que nous faisons ici. Nous nous connectons avec les gens à un niveau très basique, et c'est vraiment bien. Le reste m'importe peu, parce que je ne peux pas le changer. J'ai un peu perdu espoir dans le gouvernement. Pas qu'un peu, en fait.
Pour moi, c'est aussi une leçon de vie. On connaît évidemment, comment on dit, les différences de salaire et de traitement dans la société. Mais ici, on peut vraiment les sentir. Et je sens que cela est une sorte de message à rapporter chez soi ou quelque chose comme ça. Je l'ai vraiment ressenti et c'est quelque chose que je veux changer ou essayer de changer dans ma vie. C'est quelque chose à long terme pour moi, de faire quelque chose à partir de cette expérience.
Merci à la copine pour l'envoi de ce son et merci aux personnes interviewées de répondre aux questions et de partager des bouts de leur vie qui nous font bien comprendre l'intensité qui y a aux abords des frontières. Et j'espère, comme la première personne le disait, qu'un jour, oui, ce sera facile de bouger pour ces personnes. Merci encore en tout cas. Maintenant, on va passer à la lecture de quelques passages de l'ouvrage de Leonora Miano qui s'appelle Afropéa et qui est paru en septembre 2020. Le livre, il se résume comme ça. Leonora Miano n'est pas une afropéenne, afro-européenne. Ceux qui se définissent ainsi ont grandi en Europe. Marquée par l'Afrique subsaharienne, la sensibilité de l'auteur se distingue de celle des afropéens. Ceux-ci se sont construits en situation de minorité. La France identifie à l'Afrique tous ses citoyens d'ascendance subsaharienne privilégiant les natifs de ce continent. Cela ne favorise pas les Afropéens dans leur pays. Pourtant, ceux qui se sont donné un nom, Afropéen, dans lequel Afrique et Europe fusionnent, s'ils sont fidèles aux implications de cette association plus qu'à leur amertume, peuvent incarner un projet de société fraternelle, anti-impérialiste et anti-raciste. Dans une France en proie aux crispations identitaires, la perspective afropéenne apparaît comme une utopie. De part et d'autre, la tentation du rejet est puissante. Moi, si je tenais à lire des passages de ce livre, que je trouve intéressant, enfin en tout cas le propos il est vraiment intéressant et la critique assez pertinente, en tout cas, même si je me considère pas moi comme afropéenne et que j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça, je trouve que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Dans une France surtout aujourd'hui où le racisme est de plus en plus décomplexé et où la complexité de nos identités, elles sont vraiment mises à mal dans tous les espaces et au quotidien. Voilà. Et je voulais aussi rappeler l'importance de cette polémique qu'il y a toujours eu et qu'il y a encore de ces espaces non mixtes, que ce sont des espaces où on peut partager des expériences communes et que voilà, c'est comme ça. Et surtout, je trouve intéressant de centrer un ouvrage sur cette identité en la considérant comme une utopie, cette identité afropéenne. Voilà. Et ben, voici l'extrait. En tout cas, un premier passage. Afropéa reste une utopie. Elle est d'une grande fécondité, mais de puissants adversaires lui font face. Certains, parmi les lecteurs de ces pages, ont ouvert de grands yeux à l'idée que l'on ose prôner la fin de l'occidentalité. vivant dans un environnement rétif à tenir compte de leur présence, les Afropéens sont d'abord enclins à mettre en place des stratégies défensives. En France tout particulièrement, où le racisme fleurit plus que jamais, où les brutalités policières font office de régulateur pour rappeler qui peut jouir sereinement de l'espace public, le premier mouvement des Afropéens de la période actuelle n'est pas de prendre d'assaut les formations politiques et autres institutions afin d'y travailler à mettre un terme à l'occidentalité. Il s'agit d'abord de trouver le moyen de mener une expérience, une existence à peu près normale, de se réaliser si possible. Il s'agit aussi, parce que certaines blessures de l'histoire sont des plaies vives, d'obtenir réparation. Il semble pourtant que la France soit membre de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle fasse partie de l'instance appelée Communauté internationale et qu'elle compte bien, au nombre de ses citoyens, quantité de personnes d'ascendance africaine. Les associations plaident en faveur d'une série d'actions et d'activités au cours de cette période de 10 ans qui arrivera à son terme avant qu'il ne se soit rien passé. C'est que dans une France polluée par le racisme, angoissée à l'idée d'être envahie par des hordes de subsahariens et réticente à adopter, face à son passé colonial, un esprit de responsabilité, elle confond avec une injonction à se repentir. Le simple fait d'indiquer qu'il existe des personnes d'ascendance africaine serait une provocation. À plus forte raison, s'il est question de proposer un programme d'événements les mettant en valeur, une série de mesures permettant de les inclure dans tout discours portant sur l'identité du pays. Face à cette situation, bien des Afropéens n'en sont plus aux stratégies défensives, lesquelles sont devenues une seconde nature, l'art d'évoluer entre les larmes acérées d'une société hostile. Ils ne veulent pas s'assimiler à des colons, ont acté la séparation au moins sur un plan mental. On note ici une congestion de l'esprit, de l'âme même, certains nœuds ne pouvant être défaits par ceux qu'ils entravent. Une main doit leur être tendue, qui ne le fut pas en France. Il faut imaginer ce qu'est une condition à la fois minoritaire et confinée à l'invisibilité dans un pays où toutes ne le sont pas. Il faut imaginer ce que c'est de n'avoir de soi aucune représentation, sinon caricaturale, dégradante. Il faut imaginer ce que signifie la parole de messieurs bien sous tout rapport, qui vous affirme, assis à la table d'un grand restaurant parisien, que ces gens n'existent pas, que ce qu'ils ont à dire n'est pas universel. Qu'est-ce que le racisme systémique, sinon cette aptitude à exclure sans même s'en apercevoir? Afropéa impose une hauteur de vue qui nécessite que l'on ait transcendé les rancœurs légitimes au point de s'avancer vers ceux qui refusent de voir, de connaître, de partager. D'aller vers eux pour leur soumettre un projet de transformation, d'élévation. Ce n'est pas simple. Tant que l'histoire glorifie les bourreaux. Tant que la claustration de la race perdure. Un autre passage. Au XXIe siècle, il serait regrettable de ne pas offrir cette vision de soi aux opprimés du monde comme à leurs oppresseurs. Ce que vise Afropéa, ce n'est pas l'abandon de ce qui constitue une partie fondamentale de l'expérience afrodescendante, mais son inscription, son enracinement dans la conscience universelle. Il faut à présent déracialiser nos perspectives. On préférerait que ceux du groupe majoritaire, les privilégiés du système, fassent le premier pas. Ils ne le feront pas volontiers, pensant avoir plus à perdre qu'à gagner dans la transformation souhaitée. On voudrait alors à son tour camper sur ses positions, se bâtir une forteresse dans le silence et l'obscurité qu'offre la société, créer l'illusion d'un être qui ne soit qu'à soi et pour soi. C'est possible. Et même viable. Les marges ne promettent pas toujours le malheur, surtout lorsqu'elles sont abondamment peuplées. Mais quel serait le résultat ? un dernier passage. Voilà pourquoi elles incarnent les idéaux que d'autres proclament pour mieux les trahir dans le moindre de leurs actes. Afropéa est un agent de liaison au sens positif du mot. C'est ce qu'elle peut représenter de plus noble. N'en faire qu'une expression supplémentaire de la douleur afrodescendante la dévaluerait. Ne la percevoir que comme une identité noire vécue sur le sol européen apporterait de l'eau au moulin des nationalistes culturels qui voient, dans toute catégorie de l'afrodescendance, la représentante d'une africanité en exil. Il n'y aura pas de retour vers une Afrique qui, non seulement n'attend personne, mais pour laquelle la couleur de peau est un marqueur d'appartenance insuffisant, proprement invalide. C'est à partir de soi et de son lieu que chacun est invité à œuvrer pour transformer le monde. Pour cela, il convient d'habiter pleinement sa demeure.
T'es beau parce que t'es courageux. Regardez dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine. Quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi à présent. J'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas le recoin silencieux. C'est beau même si c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène sans arme et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants à présent. Pense à toi, toi qui sors de scène, sans arme et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants à présent. T'es beau, la la la, la rie, la 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 la. T'es beau, la la la, la, la.
Et c'est toujours la, le direct la, la, de la, Libre la, Débat. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que bah, dans le texte de Miano, qui est le dernier bouquin qu'elle a publié, il y a tout ce parallèle entre les identités, en tout cas d'autres identités qui se construisent, et une utopie, du coup, qui serait des espaces utopiques par rapport à ce que l'Occident nous imposerait comme identité en tant qu'afro-descendant. Et que ça me faisait penser que moi, l'année dernière, je pensais que l'Occident allait mourir parce qu'il n'était pas capable, en tout cas en France, on a bien vu qu'au tout début de la crise sanitaire liée au Covid, que la France n'était pas capable de fournir des masques à tout le monde, de mettre tout le monde à l'abri dans une situation où on était quand même confinés et que plutôt on devait rester chez soi. Mais du coup, de même pas faire ce petit effort de mettre tout le monde dans un chez-soi confortable pendant 7 semaines au moins. Et je me suis dit, ça y est, c'est la fin de l'Occident. L'Occident est mort. Et non, il est toujours là, mais je pense qu'il va bientôt mourir quand même. Eh bien, on est toujours sur Radio Galère. Et c'est toujours une émission qui navigue entre les questions de soins, de santé, etc. Et qui se tisse sur ces thématiques-là. Et justement, bah, y a des camarades à Toulouse qui animent une émission qui s'appelle « La vie des nôtres ». Et l'an dernier, en mars 2020, donc en plein confinement, ils et elles proposaient une émission sur la thématique de la santé. Et cette émission s'intitule « La santé des nôtres ». Je voulais juste rappeler que « La vie des nôtres », c'est animé par un groupe de personnes racisées, non blancs, si on préfère ce terme-là, en tout cas par des personnes qui subissent le racisme. Vous pourrez écouter leur émission sur le site de Canal Sud. Il y a toutes leurs émissions. Il y en a eu une sur la thématique de l'éducation, une autre sur la cuisine. Voilà, il y en a plein. Et là, j'en ai juste pris des bouts que j'ai collés. Ça fait comme un espèce de grand teaser pour cette émission « La santé des nôtres ». Et je la rediffuserai intégralement peut-être à un moment donné sur Libre Débat. En tout cas, sur le site de Canal Sud, en tapant « La vie des nôtres », il y a cette intégralité, cette émission en intégralité qui a été publiée le 16 avril 2020. Je voulais faire ce grand teaser parce que je trouve que dans cette émission, même si elle date d'il y a un an, bah, y a plein de choses qui sont dites, qui sont racontées, qui sont partagées et qui sont toujours d'actualité. Et en gros, eh ben, le son qui va suivre, c'est un peu une petite promo. Mais sachez que j'en ai tiré 12 minutes sur 1h30. On écoute.
À mon école, il y a 2 Arabes. Ils s'appellent Omar et Mohamed. Et on est arabes en secret. On est des Arabes et on s'appelle à nos prénoms arabes.
Et pourquoi? Ça veut dire quoi que vous êtes des Arabes en secret?
C'est parce qu'on ne veut pas que les autres ils le sachent et on se retrouve en secret tous les trois pour dire des choses arabes.
Et pourquoi vous voulez pas que les autres le sachent?
Parce que tout le monde croit qu'on est des Français.
Ah oui?
Oui.
Et du coup vous vous retrouvez entre vous pour vous souvenir que vous êtes arabes?
Oui, tous les jours, sauf les vacances.
Et t'aimes bien?
Oui, okay. C'est trop bien.
On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on devient pas du même game, marocaine de Ketama, on ne vit pas la même merde.
La seule façon de combattre le racisme, la xénophobie, c'est de remettre la mémoire en place et de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, ce qui existe.
L'histoire est racontée par une bande de mythos.
Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute, un pays sans justice est un pays en danger. La France est aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités et doit nous donner en tout cas ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on on soulève le peuple, le pays, on le fera.
C'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh, c'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh.
Voilà.
La vie des nôtres.
Alors, nous sommes l'équipe des ménages de l'hôpital.
Oui.
C'est juste pour faire notre coup de gueule, pour dire que nous, depuis qu'il y a Corona, on ne parle pas de nous.
Ouais.
Nous sommes oubliés.
Oubliés, oui, c'est vrai.
Le ministre de la Santé qui sort,
personne,
ne parle pas de
personne,
nous.
Personne, parce qu'il pense à nous.
Ni les médecins.
Personne ne parle de nous.
Oui.
Pourtant, nous faisons partie de l'entretien de l'hôpital. Qu'est-ce que vous en dites, les filles?
Oui. On est là à 6h du matin, jusqu'à midi.
Voilà, il y en a qui disent 6h du
jusqu'à
matin.
13h,
il y en a 7h jusqu'à 13h, 14h.
14 jusqu'à 14h.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Quand le médecin sort et que l'infirmier sort et que les soignants sortent, c'est nous qui faisons les restes dans la chambre.
Voilà.
Que ça soit propre, Ça parle aussi de la propreté. Voilà. Donc personne ne parle de nous. Oui. Alors c'est nous vrai. Sommes là. Même il faut parler de nous.
Nous sommes là. Aussi.
Ministre de la Santé, on est là. Voilà. Il faut parler de nous. Oui, oui. Voilà, voilà. Bisous à tout le monde.
Ça fait 30 ans qu'on est sur le site.
Tout et bon courage à tout le monde.
Pour tout le monde.
Toulouse, le 27 mars 2020. État d'urgence sanitaire ou état d'urgence sécuritaire. Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, les contrôles de police ciblent de plus en plus les abords de la caisse de santé à Arnaud Bernard. Si l'action de la police doit participer à limiter la propagation du virus dans le contexte actuel, et donc de vérifier que les personnes qui circulent soient munies d'une attestation dérogatoire de déplacement correspondant à un motif légitime, pourquoi cibler les abords d'un lieu de soins lui-même, particulièrement mobilisé par la crise sanitaire en cours ? D'autant plus que, pour partie, les personnes qui fréquentent notre centre n'ont pas la possibilité d'imprimer leurs attestations et souvent ne sont pas francophones et ou ne savent pas écrire. Tous les jours, nous aidons des personnes dans l'accomplissement de ces démarches. Tous les jours, nous recevons en consultation médicale des personnes pour qui c'est absolument nécessaire, soit que le motif de soins soit impérieux, soit que la téléconsultation ne soit pas possible. Hier encore, ces contrôles ont créé des situations qui ont perturbé notre travail. Des hommes en armes barrant l'accès du centre de santé, des patientes empêchées d'aller en consultation médicale, des cris, des propos irrespectueux adressés à nos personnels soignants. Nous exigeons de la préfecture de la Haute-Garonne que des consignes strictes soient données afin que les forces de l'ordre se concentrent sur les missions que la situation impose et que les abords du centre de santé soient sanctuarisés. Nous l'avons souvent exprimé ces dernières années. Ces pratiques de contrôle ciblé ont pour conséquence de créer des barrières dans l'accès aux soins et aux droits des personnes qui s'adressent à la case de santé. Elles font peser une insécurité supplémentaire à des personnes en grande difficulté. Elles engendrent abusivement des mises en rétention de personnes suivies pour des pathologies graves, avec les risques sanitaires et les ruptures de parcours en santé qui y sont liées. C'est inacceptable en général. Ça l'est encore plus dans la situation d'épidémie actuelle. Il y a pourtant d'autres priorités qui appellent la préfecture de la Haute-Garonne à une grande responsabilité. La mise à l'abri des personnes malades, laissées à la rue en premier lieu. La réponse actuelle n'est pas à la hauteur des besoins. Et c'est là que nous attendons des résultats des services préfectoraux. L'urgence sanitaire doit faire passer la réponse aux besoins sanitaires au-dessus des obsessions sécuritaires de certaines autorités publiques et des politiques du chiffre honteuse. L'urgence sanitaire dont les responsables politiques parlent, que certains semblent même découvrir à présent que l'épidémie de Covid-19 éclaire crûment certaines réalités indigentes du système de santé, les acteurs du soin la vivent depuis des années. On la vit, on fait face et on la dénonce. Sans réponse de la puissance publique jusque-là. Alors aujourd'hui, l'urgence sanitaire nous fait dire « laissez-nous bosser » et demain, nous ne manquerons pas de vous demander des comptes.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté, dans cette période compliquée. Je vous écris depuis la chambre que j'occupe, dans l'appartement de ma grand-mère, à Aubervilliers. J'habite chez elle depuis quelques mois maintenant.
Du coup, ça me fait d'autant plus peur...
Ouais. Voilà. Bah, carrément, d'ailleurs, dans le son qu'on va écouter juste après, il y aura le témoignage d'une jeune femme, Ramatoulaye, une jeune femme de 19 ans, qui porte le voile et qui a été violemment agressée par plusieurs policiers, qui a été en garde à vue et tout ça. Donc, on entendra son témoignage écrit, qui est un militant associatif. Donc voilà, on écoute ça.
C'est quoi là?
Moi j'habite dans le 93, là où les gens ont été le plus verbalisés pour non-respect du confinement. Sur la première journée, 10% des PV dressés dans toute la France l'ont été ici, en Seine-Saint-Denis, lors de confrontations souvent très musclées.
Je voudrais parler de l'actualité. On a l'impression que depuis l'état d'urgence sanitaire, et même avant, depuis en fait les mesures de confinement, les violences policières sont en train de se multiplier. Par exemple, on a des cas comme Yacine des Ulysses qui raconte s'être fait tabasser par des flics alors qu'il sortait. Ils l'ont tabassé sans même lui demander l'attestation.
une certaine idée de l'hospitalité à la française. C'est avec cette formule légère que le préfet a expliqué les choix des autorités quant à la gestion du coronavirus en Guadeloupe. Des choix qui interpellent à plus d'un titre. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce ne sont pas moins de 106 cas de Guadeloupéens atteints du Covid-19 qui sont officiellement connus. 106, pour une île qui compte seulement 390 000 habitants. Faut-il rappeler que la Guadeloupe n'est pas assez outillée en offre de santé ? Faut-il rappeler la population vieillissante ?
Ainsi, malgré les alertes, malgré les questionnements de la population, des risques insensés ont été pris. Dès le 26 février 2020, certains ports de la Caraïbe ont commencé à refuser l'accostage de bateaux de croisière quand, dans le même temps, l'arrivée de 200 touristes italiens pour une croisière était autorisée et facilitée le 10 mars en Guadeloupe. Des passagers provenant de Milan, à la faveur du dernier vol avant la mise en quarantaine de la ville, déjà connue comme foyer majeur de
Les faits sont là. Un traitement léger qui met en danger la population. Une inconséquence à laquelle nous ne sommes que trop habitués. Une légèreté qui est en fait un mépris caractérisé pour la vie humaine, pour la santé des Guadeloupéens, la santé des soignants, par ceux-là même qui ont la responsabilité d'assurer leur sécurité.
Un mépris que nous avons vu dans la gestion de l'incendie du CHU, déjà branlant après des décennies de promesses de reconstruction.
Un mépris que nous avons vu dans la gestion du cyclone Irma.
Un mépris que nous voyons depuis plus d'une décennie dans le dossier de la pollution au chlordécone, une procédure judiciaire. Nous pourrions continuer encore.
C'est la preuve, s'il en fallait, que le problème est structurel. Les responsables étatiques, loin de nos préoccupations, peu formés à nos spécificités, ignorants de nos solutions locales, n'auront pas à subir les conséquences de leurs décisions.
Nous sommes atterrés et lassés par cette insécurité, fatigués d'assister aux manœuvres dirigées à 8000 km qui, dans une indifférence criminelle, mettent nos vies en danger, en privilégiant une certaine économie qui laisse le plus grand nombre, les très petites entreprises qui composent la majorité du tissu économique, sur le carreau. La population, elle, s'organise, crée de nouveaux circuits de distribution pour l'alimentation, met en œuvre une solidarité efficace.
Face à la catastrophe annoncée, allez-vous continuer à faire des annonces individuelles sans une stratégie coordonnée ? Faut-il vraiment se plier à l'organisation d'une autorité qui n'a pas les moyens de prévenir, les moyens de protéger, les moyens de soigner, qui met nos soignants en danger ? Faut-il se plier à une autorité qui tente de museler la presse et les médias dans leur devoir d'information de la population ? Faut-il vraiment attendre l'autorisation de l'autorité étatique pour constituer un comité scientifique local pour nous aiguiller sur la marche à tenir afin de limiter la propagation du virus ?
Pour l'instant, on est là. Parce qu'il faut travailler. Malgré tout ça, on a des familles à nourrir, on a des factures à payer, de loyer. Mais on sait qu'il y a beaucoup de risques. Mais on prend les précautions, on a les gants, on a les gels pour désinfecter les mains.
Bonjour, alors du coup, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'outre-mer, des actuelles colonies de la France. Ça représente quand même 2,7 millions de personnes. Alors le coronavirus, il est arrivé plus tard dans les territoires d'outre-mer qu'en France. Et d'ailleurs, on va voir, c'est venu par des gens qui étaient en croisière ou qui revenaient de France. Le confinement, par contre, a commencé en même temps, à peu près. Ce qui fait que, globalement, quand même, aujourd'hui, on peut dire que... Ça a l'air qu'il y a un nombre assez limité de cas et de morts dans l'outre-mer. Au total, donc là, c'est pour des chiffres du 4 avril, il y aurait 860 cas avérés et 14 décès sur l'ensemble des pays, territoires d'outre-mer. Sachant quand même que, comme pour la France, et je dirais encore plus d'ailleurs que pour la France, il faut prendre avec des pincettes parce que il n'y a évidemment pas de moyens de test et pas de test systématique. Et puis il y a des endroits, notamment en Guyane, où je pense qu'on a très très peu de visibilité sur ce qui se passe vraiment dans certaines zones du pays. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que ça vient se heurter à des situations en termes d'équipement et de moyens de santé qui sont catastrophiques dans tous ces pays-là. Depuis longtemps, en France, il y a des mobilisations pour plus de moyens. Là-bas, c'est encore plus criant. Il y a eu notamment des manifestations importantes dans tous ces pays-là. Notamment en 2017, ça faisait partie des revendications des personnes qui ont dû de la révolte qu'il y a eu en Guyane. Il y a pas si longtemps, une manifestation de 5000 personnes en Guadeloupe pour la reconstruction du CHU de Guadeloupe, parce qu'il faut savoir qu'en 2017 aussi, l'hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe a brûlé et qu'à ce jour, il n'est toujours pas entièrement reconstruit. Il y a des moyens de, disons, temporaires, avec des préfabriqués, avec des choses comme ça, pour essayer de continuer d'assurer un certain nombre de choses, mais c'est vraiment des bouts de ficelle, quoi. En Guyane, il n'y a que 10 lits de réanimation. En Mayotte, il n'y en a que 13. De manière générale, il y a aussi beaucoup moins de médecins. Il y a des problèmes d'accès aux soins qui sont aussi très compliqués, notamment en Guyane, notamment à Mayotte. Il y a des médecins qui dénoncent aussi, on va y revenir aussi, que donc à La Réunion, par exemple, il y a eu plusieurs épidémies dans les dom-toms, notamment celle du chikungunya, qui a infecté une part importante de la population, plus de la moitié en tout cas, dans les années 2000. Et il n'y a pas eu de réaction particulière de l'ARS, de l'autorité de santé, qui dépend de l'État. Du coup, il n'y a pas eu plus de moyens de mine en place en particulier.
Voilà, voilà, c'était des extraits de La santé des nôtres, l'émission de la vie des nôtres, que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de Canal Sud. Voilà, je rappelle que dans l'intégralité de l'émission, il y a aussi une interview d'un médecin généraliste qui travaille dans un centre de santé communautaire. Le bout qu'on vient d'entendre, il est beaucoup plus détaillé. Les questions sur les violences policières, c'est pareil. Enfin voilà, c'est juste vraiment des courts extraits mis bout à bout. Léon Gontran Damas, sans satisfait du sens ancien du dit. Sans satisfait du sens ancien du dit. Sans du sang de ton sang de pur sang. Sans qui ne s'ignore, sans qui se révèle. Sans qui se dresse, sans qui se redresse. Sans qui se rebelle, sans qui se rebiffe. Sans qui se révolte, sans qui se cabre. Sang qui se regimbe dans sa fierté blessée. Eau. Eau du ciel déversée sur le fleuve où s'en vint échouer à l'âge amérindien du monde, celle dont tu sais à souhait restituer l'image. Parce que tu es sang, parce que je suis eau, est-il à ce point vrai que l'amour puisse à satiété en souvenir de nos enfances communes et une, se répéter pour soi et soi seul la romance du sang. Du sang plus riche que l'eau, du sang plus beau que l'eau, du sang plus épais que l'eau. Parce que tu es sang, sang du sang de ton sang, bon sang de pur sang. Parce que je suis eau, eau du ciel à torrent déversé sur le fleuve, d'où te vient ce long cri d'alarme? Je me sens soudain seul, emmuré vif dans l'angoisse de la mort silencieuse de mes nuits d'insomnie tiraillées de remords. Au pied de ton pardon, je dis ni sang ni eau, mais sang et eau mêlés, car tous deux confondus, nous ne sommes qu'une même somme, qu'un seul et même sang. C'était Léon Gontran Damas. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec Etta James et on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Cry, cry, girl.
Do I watch out, do the world.